Bonjour chers amis, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier Daf Lamed Gimel, la page 33 du traité Baba Metzia. Alors on s'était arrêté à la fin de la page 32, deux mots avant la fin de la page. La Gemara discutait, on essayait de voir est-ce que Tsar Balechayim c'est une loi de la Torah ou des sages. Ça veut dire, est-ce que le fait de faire attention à ce qu'une bête ne souffre pas, c'est une loi, une institution de la Torah ou non? Alors, dit la Gemara, Tashma, viens, écoute, on se trouve donc les deux derniers mots de la page 32, et on passe à la page 33, Tashma, viens et écoute. Rovetz velo ravtsan, lorsque le verset dit, raconte que si quelqu'un y voit l'âne de son prochain qui est accroupi à cause de la charge, et qu'il faut donc aider son prochain à décharger son âne, alors, il y a écrit dans le verset « Rovetz tachat masao », quelqu'un qui a vu l'âne de son prochain, qui est, ou même de son ennemi, qui est accroupi en dessous de la charge, de sa charge. Donc, « Rovetz », du fait qu'on parle qu'il est accroupi, « Velo ravtsan », on parle d'un cas où c'est arrivé une fois que cet âne, il était accroupi à cause qu'il s'est affalé sous le poids qu'il était en train de porter. Mais pas que c'est son habitude. Dans ce cas-là, si c'est l'habitude de cet âne, il n'est pas assez solide pour de tels travaux, alors ce n'est pas nécessaire d'aider le propriétaire. Rovetz, velo omed, aussi quand on parle que l'âne il est accroupi, donc on parle qu'il est accroupi et pas qu'il tient debout, même si on craint qu'il va tomber après, il n'y a pas encore d'obligation d'aider le propriétaire à décharger la charge. Mais tachat masao, lorsque le verset est dit donc qu'il est accroupi en dessous de sa charge, velo mefourak. Donc on parle qu'il a une charge et on ne parle pas que la charge elle a déjà été posée par terre et qu'il faut maintenant aider à charger. La Gemara expliquera de quoi il s'agit plus loin. Tarad Masao, et encore un autre enseignement, quand le verset dit Tarad Masao en dessous de sa charge, on apprend d'ici Masoi Sheyachol Amodbo. On parle d'une charge que le propriétaire il a mis sur son âne, une charge qu'il aurait pu tenir avec cette charge. Ce n'était pas quelque chose d'anormal. Il n'a pas exagéré en mettant trop de poids sur son âne. Point. Dit la Gemara, Veya Marta Tsar Balechaim Deoraita. Or, si tu dis que la loi qu'il faut faire attention à ce que les bêtes ne souffrent pas, c'est une loi de la Torah, Mali Rovetz, Mali Ravtsan, ou Mali Omed, que ça change s'il est accroupi ou s'il a l'habitude d'être accroupi ou si maintenant il est debout. Si la bête elle est en train de souffrir, il faut aider. Donc, on a une preuve a priori que Tsar Balechaim, le fait de faire attention à ce que la bête ne souffre pas, ce n'est pas une loi de la Torah. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici. Haman et Rabbi Yossi à Galilée. Ça, on peut dire, ça va comme qui? Ça va comme la vie de Rabbi Yossi à Galilée. D'Amar Tsar Balechaim de Rabbanan, qui a dit que le fait de faire attention à ce que la bête ne souffre pas, c'est une loi des sages, et pas une loi de la Torah. Point. Donc, du verset, on apprend effectivement qu'il n'y a pas une obligation dans ce cas-là. Dit la Gemara, Achin Ami Mistavra. Effectivement, c'est logique de dire que la Braïta qu'on vient de lire, ça va, elle suit la vie de Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi? Des katanes, car on a enseigné dans la Braïta, Tachad Masao, Masao Sheyachol Ahamod Bo. On avait enseigné un des enseignements que quand on parle que c'est, que le verset il dit Tachad Masao, que l'âne il est tombé sous le poids, à cause du poids, sous la charge. On parle d'une charge qu'il aurait pu tenir de manière générale, c'était pas anormal qu'il tombe. Et qui a dit cet enseignement? Et sinon, si c'est une charge qui est exagérée, alors on n'a pas besoin d'aider le propriétaire. Or, qui a dit une telle chose? Manchamatle deitle haizvara. Qui pense une telle logique? Rabbi Yossi Agalili. Qui tu as entendu qui pensait une telle loi? Rabbi Yossi Agalili. C'est Rabbi Yossi Agalili. Shma mida. Donc, on peut déduire que la braïta, elle va comme Rabbi Yossi Agalili. Dit Agmara. Ah oui. Est-ce que tu veux dire que cette braïta va comme Rabbi Yossi Agalili et non pas comme les sages? Or, c'est enseigné dans la braïta, vers la fin de la braïta, un des enseignements, il y a écrit que du fait que le verset il dit Tahat Masao, qu'il est en train de peser, il était affalé sous sa charge, et on ne parle pas, donc on parle qu'il y avait la charge au-dessus de lui, au-dessus de l'âne, et pas que la charge avait déjà été posée par terre, et on a besoin maintenant de charger l'âne. De quoi s'agit-il? Maïlo Mefourak, c'est quoi? Qu'on ne parle pas du cas où la charge elle est par terre et il faut aider à charger. C'est quoi ça? Il est Maïlo Mefourak, si on va dire qu'il n'y a pas besoin du tout, que si la charge elle est par terre, il n'y a pas besoin d'aider le propriétaire à charger son âne. Ce n'est pas possible. Pourtant, il y a écrit dans le verset, Hakem Takimimo, il faudra aider à lever son âne, à le faire tenir debout. Et la pchita, donc en l'aidant à mettre la charge dessus, et la pchita, l'omifurak, bechinam, et la bessar, seulement n'est-ce pas, tu vas comprendre l'enseignement, que ce qu'on parle, on a dit que ce n'est pas nécessaire d'aider le propriétaire lorsque la charge elle est par terre, ce n'est pas nécessaire de l'aider à charger, ce n'est pas nécessaire de l'aider gratuitement, mais on peut lui demander d'être payé. Qui a dit un tel enseignement? Manchamatle de Itle Haizvara, qui dit un tel enseignement? Rabbanan, ce sont les sages. Comme ça, ce sont eux qu'on avait vu qui pensaient un tel enseignement. Donc comment tu dis que la Braïta va comme Rabbi Yossi HaGalili? Directement, ce n'est pas une question. Rabbi Yossi HaGalili est d'accord sur cet enseignement comme les sages. Rabbi Yossi HaGalili, l'olam Rabbi Yossi HaGalili. Toujours, je pourrais te dire que l'enseignement va comme Rabbi Yossi HaGalili. Ou Beteina, savoir là que Rabbanan. Et à propos des lois qu'il faut aider à charger, alors là, il pense comme les sages. Point. Dilagmaratanu Rabbanan vient et les sages ont enseigné. Qui tirait, donc il y a une Braïta qui nous dit, il est écrit dans le verset, qui tirait, quand tu verras l'âne de ton prochain, qui tirait, yachol afilu merachok. Donc on pourrait croire que même si tu vois de loin, tu le vois à 1 kilomètre avec des jumelles, tu vois là-bas, il y a l'âne de ton prochain qui est affalé sous sa charge, qu'il faut venir l'aider. On pourrait croire ça. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a un autre verset qui dit, divga. Lorsque tu vas, alors, divga, on traduit, tu vas rencontrer, mais ça peut être en réalité tivga, c'est quand tu vas toucher. C'est-à-dire quand tu vas arriver très proche, tu vas rencontrer vraiment, mais tu vas atteindre l'âne de ton prochain. Ah, si c'est comme ça. Donc c'est pas quand tu l'as vu de loin. Derimara, iki tivga, s'il y avait écrit juste dans le verset, quand tu vas atteindre, yachol pgiamash, je pourrais croire, le terme de pgia, c'est toucher. Je pourrais croire, c'est que quand tu as touché l'âne vraiment, mais pas quand tu le vois à 10 mètres. Talmud Lomar qui tirait, c'est pour ça que le verset il vient dire quand tu vas voir. Donc c'est pas vraiment qu'on a besoin de le toucher, et c'est pas quand on le voit de très loin. Donc c'est quoi donc le fait que ça s'appelle que tu es en train de voir et ça s'appelle comme si tu as touché, c'est-à-dire qu'on est assez proche. Les sages ils ont évalué et ils ont dit que c'est 1 sur 7,5. Donc on divise par 7,5 quoi. Une part de 7,5 d'un mille. Un mille, c'est 2000. Un mille, ça s'appelle comme ça. C'est 2000 amot, 2000 coudées. Donc 1 sur 7,5, ça revient à 266 et 2 tiers. Vezehu ris. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ris. D'ailleurs, Tosfot dit qu'il faut dire la conversion rousse. Pourquoi rousse? Parce que rousse, c'est écrit. La valeur numérique de rousse, c'est 266. Comme on vient de dire, c'est 266 et 2 tiers. Point. Tana, et on a une Braïta qui nous dit, on met d'adé, imo ad parsa, celui qui a aidé son prochain à charger son âne, il faut aller maintenant, après, il faut aller avec lui jusqu'à une parsa, pour voir si l'âne ne va pas tomber. Amar barbar barchana, venotel sechar, il dira barbar barchana, mais il est payé sur ça, bien sûr, sur le fait d'aller avec, si l'autre il n'est pas intéressé à être payé, à le payer. Eh ben, il n'est pas nécessaire de suivre cet âne pendant jusqu'à la distance d'une parsa. On arrive à la Mishnah, dit la Mishnah, Avedato ve Avedat Aviv, Avedato Kodemet. Avedato ve Avedat Rabo, Shelo Kodem. Si quelqu'un il a une trouvaille, quelque chose qui est par rapport à lui, que lui il risque de perdre, ou alors son père risque de perdre, alors il n'a pas d'obligation de perdre personnellement. Il peut prendre pour lui, Avedato, son propre objet perdu, c'est sa prime en premier. Même s'il ne pourra pas aider son père à retrouver son objet perdu, on ne parle pas spécialement d'un objet. Hein, quand on avait déjà expliqué que quand on parle d'un objet perdu, d'une Aveda, c'est effectivement un objet perdu, mais ça peut être des fois une perte, d'aider qu'il n'y ait pas une perte, un dommage qui risque d'être causé. Donc, par rapport à quelqu'un qui a le choix, soit entre s'occuper de son objet perdu, soit entre s'occuper de l'objet perdu de son père, eh ben, il a le droit de s'occuper de son objet perdu en premier, d'abord. La même chose aussi avec son maître. Avedato v'avedat rabo, son objet perdu et l'objet perdu de son rav, shelo kodem, donc son objet perdu personnellement, ça lui, il est avant. Avedat aviv ve avedat rabo. Maintenant, s'il y a le choix entre l'objet perdu de son père ou l'objet perdu de son maître, shel rabo kodemet. Alors, il faut d'abord s'occuper de l'objet de son rav. Pourquoi? Shaviv evio leolam haze ve rabo shelamdo chokhma mevio lechaya olam haba. Car son père, il l'a amené dans ce monde-ci, donc il lui doit la reconnaissance de l'avoir fait naître. Mais son maître, son rav qui lui apprend la sagesse, alors il l'amène dans la vie du monde futur. Vim aviv chacham, continue la Mishnah en disant que si son père, il est aussi, c'est aussi un sage, donc même si c'est pas lui qui lui a enseigné la Torah, mais lui-même, c'est un sage, il y a écrit dans les Agot Habar, sur le côté que c'est un sage, au même titre, au même niveau que son maître. Dans ce cas-là, shel aviv kodem, alors il faut devancer et aider d'abord à sauver les biens de son père. Donc en général de son maître, mais si le père aussi c'est un érudit, alors aussi de son père. Haya aviv verabonos in masoy. Si maintenant quelqu'un y voit son père et son rav qui était en train de porter quelque chose, maniach et shel rabo, la Gemara parlera après de quel rav on parle, maniach et shel rabo, veacharkar maniach et shel aviv. D'abord il faut venir et aller en aide de son rav et après et de le mettre de côté, l'aider à le poser et après poser la charge que son père il est en train de porter. Aya aviv verabo bevet hashevi. Si maintenant il y avait son père et son rav qui étaient en captivité, podet rabo varkar podet aviv. Il rachète d'abord son rav, son maître, et après il rachète son père. Tout ça c'est la même logique qu'on a dit avant. Vim aviv chacham. Mais si son père, c'est un sage aussi, podet aviv, akar podet rabo, alors d'abord il rachète son père et après il rachète son maître. Point. Diagmra mina hanemil. D'où sait-on que lui, ses biens personnels, il prime. Et par rapport à son père et par rapport à son maître. Amar Raviuda, Amar Rav, dit Raviuda au nom de Rav, Amar Kray, il y a le verset qui a dit, Efes klebecha evion. Donc on comprend de ce verset, fais attention à ne pas devenir un pauvre. Ton argent, il prime, il devance l'argent de toute personne. Donc ça, c'est la loi. Mais dit Rav Yehuda Amar Rav, tout celui qui est pointilleux d'agir de cette façon, au final, il deviendra ainsi, c'est-à-dire il deviendra un pauvre. Celui qui fait attention à toujours, et même quand ça concerne par rapport à son, il y a une perte pour lui ou pour son père, toujours il prime. Il peut, d'après la loi stricte, il peut. Mais il fait primer ses biens personnels par rapport aux biens de son père ou alors de son rave. Au final, s'il fait attention même sur des petits points, et il arrivera, il deviendra pauvre. Rachid dit, c'est-à-dire au moins, quand il y a des petites pertes, au moins les prendre. On ne peut pas lui imposer de grandes pertes, mais au moins des petites pertes. Alors qu'il faut laisser que la perte elle soit personnellement et pas pour son père ou son rave. Point. On a vu encore une autre partie dans la Mishnah. Haya aviv verabon osin masoy vechule. Si son père et son maître ils étaient en train de porter une charge, etc. Donc ils s'occupent d'abord de son rav et après de son père, etc. Tanu rabanan. Les sages ont enseigné une braïta qui nous dit rabo chez Amrou. Quand on a parlé de son maître, de quoi il s'agit? Rabo chez Limdo Chochma. Velo rabo chez Limdo Mikra ou Mishnah. Divrei Rabbi Meir. On parle de son maître qui lui a appris de la sagesse. Donc quand on parle de la sagesse, il dit d'Irachi, ça veut dire ce qu'on appelle la Gemara, l'explication des enseignements. Quand il y a des enseignements, il y a beaucoup d'enseignements. On n'arrive pas, si on ne comprend pas la raison des enseignements et on ne sait pas comment les comprendre, on peut faire de graves erreurs. Parce qu'on va dire, la même raison, on se trompe dans la raison, on dit la même raison, elle existe autre part. Ou alors ça, comment on explique la contradiction de telle ou telle façon, on risque de faire des erreurs. Donc la chorma, la sagesse, quand on parle ici, ça veut dire ce qu'on appelle nous l'enseignement de la Gemara, qui est l'enseignement de la Gemara qu'on étudie, c'est d'expliquer les enseignements des Mishnayot qui sont des lois sans raison. Presque pas, quoi. Et presque pas. Dans notre Mishnah, d'Afka, oui, sûrement, on a vu une raison. Mais de manière générale, les Mishnayot donnent une loi, les lois les unes après les autres, sans donner détailler les raisons. Il y a des raisons. Quand on a dit sans raison, c'est-à-dire qu'on ne détaille pas. La Mishnah ne détaille pas la raison. Mais bien sûr, il y a des raisons. C'est ça le travail de la Gemara. Donc son maître qui lui a appris de la sagesse, comme on a expliqué la raison de chaque chose, quel est l'enseignement qui a enseigné telle chose. et pas son maître qui lui a appris les versets ou les Mishnayot, des enseignements sans détail. Divra Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Deuxième avis, Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda dit, Kol Sherov, Chochmato Emenu, tout celui que la majorité de sa sagesse est de lui. Alors, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ça change pas. C'est-à-dire, si c'est la majorité de sa sagesse, dans chaque point de sagesse, si c'est dans l'étude des versets, si c'est dans l'étude de la Mishnah, si c'est dans l'étude de la Gemara, donc quelqu'un peut avoir plusieurs raves, d'après Rabbi Yehuda, que la majorité de la Gemara, il a appris d'un tel, de la Mishnah, il a appris d'un tel, des versets, il a appris d'un tel. Rabbi Otzi Omer, Rabbi Otzi dit, Afilu lohir ena vela bimishna achat zehu rabo. Rabbi Otzi dit non. Celui qui lui a appris, même si quelqu'un lui a rien qu'ouvert les yeux sur un enseignement d'une Mishnah, il lui a expliqué l'explication d'une Mishnah, pas la majorité de ce qu'il connaît, ça s'appelle déjà son rav. Amar Rava, sur ce dit Rava, Kigon Rav Schora de Asbaran Zuhama Listeron. Comme Rav Schora qui nous a enseigné, c'est quoi ce qui est enseigné? Il y a une Mishnah de Kelim, dans le traité de Kelim, qui parle d'un certain ustensile qui s'appelle Zuhama Listeron. Et Rav Schora, il l'avait expliqué, dit Rashi, qu'on parle d'une certaine cuillère, une sorte de cuillère avec laquelle qu'on utilise pour sortir la mousse qui se trouve dans la marmite. Raconte la Gemara encore une autre histoire, un peu dans le même ordre d'idée. Shmuel karal maane ale haoud merabanan. Shmuel, il a déchiré son habit. Il y a une façon que quelqu'un qui déchire son habit pour quand il entend un grand érudit qui va décéder, ou alors quelqu'un qui va déchirer son habit parce que son maître, son propre maître, il décède. Et Shmuel, lui, il a déchiré son habit que pour un sage, qui n'était pas, on ne pensait pas que c'était son maître, mais c'était un érudit qui avait, une fois, il avait expliqué à Shmuel, il lui avait expliqué un enseignement. Shmuel, c'était le Gadol Hador, le géant de la génération. Mais une fois, il avait entendu un enseignement de quelqu'un qui était d'un sage, d'un érudit. Quand il est décédé, eh ben, il se considérait que cet érudit, c'était son maître. De Asbaré, qui lui avait expliqué, il lui avait expliqué l'enseignement qui dit Echad yored le'amat ashechi ve'echad poter kivan. Alors, de quoi il s'agit ici? Pour entrer dans le Echal. Le Echal, c'était la partie intérieure dans le temple. Pour entrer là-bas, l'ouverture se faisait par l'intérieur du Echal. Ça veut dire quoi? La porte principale du Echal, elle s'ouvrait de l'intérieur. Comment il faisait? Il y avait une autre porte sur le côté. Avant le Echal, il y a ce qu'on appelle le Oulam. Dans le Oulam, sur le côté, il y a une porte qui mène à une petite pièce, on va dire. Hein, et de cette pièce, encore une porte qui mène au Echal lui-même. Et les Kohanim, quand ils venaient le matin pour ouvrir la porte du Echal, ils rentraient par la petite pièce, donc en ouvrant deux portes. Une première porte qui va depuis le Oulam jusqu'au Tas, jusqu'à la petite pièce. Après, une deuxième porte qui va depuis cette petite pièce jusqu'au Echal. Et après, ils ouvraient la grande porte principale du Echal de l'intérieur. Maintenant, quand il agissait de cette façon, la première des deux petites portes, c'était une porte qui ne s'ouvrait aussi, elle pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. Et donc, il y avait un trou dans le mur où le Kohen y rentrait sa main, et c'était pas facile, ça prenait du temps. Il rentrait sa main jusqu'au bout, et après il ouvrait comme ça la porte de l'intérieur. Et la deuxième porte, elle s'ouvrait simplement de l'extérieur, quoi, de là où il se trouvait, il ouvrait simplement. Et donc c'est ce qu'on écrit. Il avait le Kohen qui arrivait pour ouvrir, il avait deux clés, et Chad Yored Le'amat Asheri. Une avec une, il allait jusqu'à l'endroit où il devait envoyer sa main, jusqu'à ses aisselles, donc il devait envoyer la main jusqu'au bout pour ouvrir, et avec une autre, il ouvrait vite, facilement, normalement. Point. Amaroula dit Oula, Talmide Chachamim Shebebavel, Omdin Ze, Mipneze, Vekorin Ze, Alze. Dit Oula, les érudits qui se trouvent en Babel, eh ben, ils se lèvent l'un devant l'autre, comme un élève il doit se lever devant son maître, ils se lèvent un devant l'autre, et ils déchirent leurs habits l'un devant l'autre. L'un pour quand il entend le décès de l'autre, alors il déchire son habit. Pourquoi? Même si c'était pas vraiment, c'était tous des élèves. Mais comme ils étudient ensemble, donc ça arrive qu'un il pose une question, l'autre il dit une réponse. Chacun avait appris de tout le monde à peu près, donc ils s'honoraient tous au point où chacun considérait que les autres étaient un maître pour soi, quoi. ou l'Inyana Veda. Tout ça, c'est... Et aussi, il se déchirait les habits quand il y en a un qui est décédé. Il considérait que c'est comme si c'était son maître. Il déchirait l'habit de cette façon. Ou l'Inyana Veda, bimkom aviv, enan chosrin ilal rabo mouvak. Par contre, quand il y avait une situation d'un objet perdu, et son père, il risquait de perdre un objet, et son ami, comme on a dit, un autre élève risquait de perdre un objet, bien qu'il considérait que le maître, que l'autre élève, c'était aussi qu'il le considérait comme un maître, qu'il lui avait pris quelque chose, mais sur ça, eh ben, il ne faisait pas perdre au père, il devançait le père, sauf s'il s'agissait vraiment du Rav Mouvak, du maître qu'ils apprenaient tout de lui, ou la majorité des enseignements de lui. Point. Kabayu mine Rafrizda me Ravuna. Rafrizda, il a demandé à son maître, Ravuna, il lui a demandé une question. Talmid vetzarich lo rabo. Si il y a un élève, c'est un élève d'un Rav, mais le Rav, il a besoin de cet élève. Pourquoi? Parce que le Rav, il profite des enseignements que l'élève, il écoute les enseignements que l'élève, il avait appris d'autres rabbanim une fois. Qu'en est-il, Mike? Qu'en est-il? Ce que ça s'appelle son Rav par rapport à ce qu'il va devancer, par rapport à s'il va trouver un objet, l'objet de son père ou l'objet de ce Rav-là, eh ben, il faudra faire devancer l'objet du Rav ou non. À Marley, alors Ravuna, il comprenait que Rafriza, il a posé la question par rapport à lui-même. Et il voulait dire comme si Ravuna, c'est son maître, mais il a besoin de lui. À Marley, alors Ravuna lui a dit, Rizda, Rizda, il a dit à son élève, Rizda, Rizda, l'otrichna lecha, atrichat li ad arbaim shnin. Je n'ai pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de moi jusqu'à 40 ans même. Parce qu'un élève, il a besoin de son maître jusqu'à 40 ans pour qui on dit que ça prend 40 ans pour arriver jusqu'à comprendre toute la profondeur de des enseignements. Après, une fois que quelqu'un il a appris 40 ans chez quelqu'un, on peut dire qu'il a atteint le même niveau et le même niveau de compréhension entièrement. Et il arrive à tout comprendre ce qu'il voulait dire. Ikpede ahadade. Ils étaient fâchés l'un envers l'autre ou un peu ils avaient ils étaient vexés l'un envers l'autre. Mais le haïlé les gabé hadade. Ils ne sont pas allés se voir. Yativ Rafrizda arba'in ta'anita mishum de chalash daté de Ravuna. Alors Rafrizda, il a jeûné 40 jeûnes car il avait fait de la peine à Ravuna lorsque il a posé sa question et il a laissé sous-entendre, même si ce n'était pas vrai, mais que Ravuna a pu comprendre que Rafrizda pensait qu'il n'avait pas besoin de lui. C'est même si quelqu'un agit sans mauvaise pensée, il faut toujours faire attention à ne pas vexer les autres. Ici, on peut dire que quelqu'un il a été vexé. On veut pas demander pardon, on a raison. C'est vrai, on a raison. Mais si il y a une façon où la personne en face de nous a été vexée, c'est un grand niveau de s'habituer. L'autre, il a été vexé à cause de nous, on s'habitue à demander pardon. Pourquoi? C'est vrai qu'on a agi comme il fallait. Mais si on a agi, on n'a pas fait attention que l'autre ne soit pas vexé, à un certain niveau, c'est un problème. Même si on ne fait pas attention du tout, c'est sûr, c'est un grand problème. Mais même si on a bien agi et on a essayé de faire attention, mais l'autre, il a mal compris et il a mal agi, alors nous, on doit regarder notre travail, notre niveau personnel, on doit considérer ça un problème et aller demander pardon à l'autre. En tout cas, il a jeûné 40 jours, 40 jeûnes, parce qu'il avait fait de la peine à Ravuna. Et Ravuna, la même chose aussi. Il y a dit Ravuna, Arbaïn, Ta'anita, Mishum, Dechajdi, de Rafrizda. Ravuna, il a fait 40 jeûnes car il avait soupçonné en vain Rafrizda. Point. Itmar, on a enseigné. Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Alakha, Rabbi Yehuda. Rav Yitzhak Bar Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que la Alakha, elle est tranchée comme Rabbi Yehuda, que celui qui a la majorité de sa sagesse est de lui. Alors, la sagesse, c'est-à-dire n'importe quelle sagesse, quoi. Si c'est de la Mishnah, si c'est de la Gemara, si c'est des versets, eh ben, c'est considéré son Rav. Et Ravacha Baravuna Amarav Shechet Alakha Karabi aussi, Ravacha Baravuna au nom de Rav Shechet, il a dit qu'on tranche l'Alakha Karabi aussi, que celui qui a appris de quelqu'un d'autre, même l'explication d'un seul enseignement d'une Mishnah, ça suffit pour être considéré son Rav. Dit Agmara, ah oui, ou mi Amarav Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit un tel enseignement que la Alakha elle est comme Rabbi Yehuda, qui dit que celui qui a appris la majorité de la sagesse de lui, eh ben, c'est donc n'importe quelle sagesse, quoi, de la Mishnah, de la Gemara, ou des versets, eh ben, c'est considéré son Rav. Va'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit Alakha Kesta Mishnah, qu'on tranche l'Alakha comme une Mishnah où il n'y a pas d'avis, on ne cite pas le nom de celui qui a enseigné. Utnan, or dans notre Mishnah, il y a écrit Rabbo Shelimdo Chorma, On parle d'un Rav qui lui a appris de la sagesse. Donc, a priori, ça va comme Rabbi Meir. Nous, on comprend c'est quoi la sagesse? La Gemara? La compréhension? La Gemara? La Gemara, non. Maï Chorma, c'est quoi la sagesse? Rof Chormado, celui qui a appris la majorité de ses enseignements, de sa sagesse. Encore une fois, soit par rapport à la Mishnah, soit par rapport à la Gemara, soit par rapport à au verset. Point. Tanu Rabbanan, dit la Gemara, il y a une braïta qui nous dit, Haoskim Bemikra, ceux qui agissent, ceux qui s'investissent dans les versets, Mida Veina Mida. C'est un niveau, mais ce n'est pas le plus haut niveau. Bemishna, ceux qui s'investissent dans la Mishnah, Mida, c'est un grand niveau. Benotlin Alea Sachar, il prend une grande récompense. Gemara, ceux qui s'investissent dans la Gemara, il faut tout faire. Mais la question où la personne s'investit de plus, Gemara, c'est ceux qui s'investissent dans la Gemara, dans l'étude de la Gemara, en lecha mida gdola miso, il n'y a pas de niveau plus haut que ça. Velo lam, mais finit la braïta en disant, velo lam et verat le Mishnah, yoter mi la Gemara. Mais toujours, il faut courir et étudier la Mishnah plus qu'on étudie la Gemara. Quoi? Demande la Gemara, hagufa kashia. Ça a l'air de se contredire. Pourquoi? Amarta be Gemara en lecha mida gdola miso. Au début, tu as dit que celui qui étudie la Gemara, il n'y a pas de niveau plus haut que cela. Ve'adar amarta ve le'olam et ve'rat le'mishna yoter min ha'gemara. Et après, tu as dit, toujours une personne, elle doit courir aux enseignements de la Mishna plus que l'enseignement de la Gemara. Et justement, tu as dit que la Gemara, c'est le niveau le plus haut. Alors, comment comprendre? Amar Rabbi Yochanan, sur ce dit Rabbi Yochanan, bime Rabbi nishnet mishnazo. À l'époque de Rabbi, cet enseignement, il a été enseigné. Ce qu'on a dit, que le niveau de la Gemara, c'est le niveau le plus haut. Et alors, quand ils ont appris que la Gemara c'était le niveau le plus haut, Shavku Kula Alma Matnitin, ils ont tous abandonné l'étude de la Mishnah, Vazlu Batar Gemara, ils ont commencé à s'investir, à expliquer. Ils ont arrêté de réviser les Mishnayot qu'ils connaissaient, et ils ont commencé à apprendre, à s'investir dans la profondeur de chaque enseignement, et comment comprendre chaque point, chaque chose, à essayer de comprendre chaque point, chaque détail. Hadar Darash Lehu, quand Rabbi il a vu ça, il a eu peur que les gens allaient arrêter d'étudier, de connaître les Mishnayot et allaient faire des erreurs. Donc il leur a enseigné, mais quand même, malgré tout, il faut courir à la Mishnah plus que la Gemara, parce que si personne ne connaît la Mishnah, alors il y aura des erreurs. À l'époque, ce n'était pas écrit. C'est Rabbi, à son époque, qu'il a commencé à écrire les Mishnayot. Mais il n'y avait pas tous les enseignements qui étaient écrits. Et donc, si quelqu'un, s'il perdait le texte même des enseignements, et il faisait juste approfondir les points, mais il se trompe, au lieu de dire c'est permis, il est interdit. Ils vont essayer d'approfondir pourquoi c'est interdit. C'est permis. Ou l'inverse. Alors il y aura des erreurs. Dit la Gemara, comment Rabbi, quand il a enseigné au départ que c'était plus important d'enseigner, d'étudier la Gemara, c'était le niveau le plus haut. Maïdarouche, qu'est-ce qu'il a, d'où il a tiré cet enseignement? Dit la Gemara, Kedé Darish, Rav Yehuda. Comme Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai. Comme Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai, il a enseigné. Maïdirtif, c'est quoi ce qui est écrit dans le verset? Haged le ami pisham ulbet Yaakov khatatam. Il est écrit dans le verset, dis à mon peuple. Mon peuple, ça veut dire les érudits. Pisham, leur faute. Leur faute, pisham, pécha, c'est une faute qui est faite volontairement. Dis-leur leur faute qu'ils ont fait volontairement. Ulbet Yaakov, à la maison de Yaakov, c'est le reste du peuple. Khatatam, dis-leur leur faute qu'ils ont fait involontairement. C'est quoi ça? Haged le ami pisham elu talmidei chachamim. Lorsque le verset dit à mon peuple leur faute volontaire, ce sont les érudits. Que quoi? Shejgagot naasot lahem kesdonot. Hashem ishmor. Leur faute sans faire exprès, ça devient, s'ils font des erreurs, ils ont compris d'une mauvaise manière parce qu'ils se sont pas investis à comprendre comme il fallait, alors ils risquent de, leur faute, ça devient comme quelque chose qu'ils ont fait exprès puisqu'ils pouvaient s'investir à comprendre. Ou bête Yaakov, mais ceux qui n'ont pas les facultés de comprendre, c'est le reste qui sont pas des érudits et qui n'ont pas cette compréhension. Hatatam elu, et leur faute sans faire exprès, ça fait référence à quoi? Elu ameharetz chez donot naasot lahem kesgagot. Ce sont les ameharetz, les gens qui n'étudient pas et qui ne comprennent pas, que leur faute sans faire exprès, en faisant exprès, pas en faisant exprès des fautes contre les fautes, mais des fautes qu'ils auraient pu plus s'investir, ça devient comme des fautes qui ne sont pas faites exprès parce qu'ils n'avaient pas les forces de comprendre. Vaïnou detnan, et c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Hevei Zahir betalmud, Shegigat Talmud Olazadon. Rabbi Yehuda dit, c'est une Mishnah dans Avot, fais attention à bien et à betalmud, dans l'étude du Talmud. Le Talmud, c'est la Gemara. Pourquoi? Parce que oublier son Talmud, ne pas s'investir, ça coûte comme quelque chose de volontaire, comme une faute volontaire. ça fait que la personne, on lui dit, pourquoi il ne s'est pas investi à bien comprendre comment il devait agir. Darash Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, dit la Gemara, Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, il a enseigné. Maïdirtif, c'est quoi ce que le verset il dit? Il écrit dans le verset, écoutez la parole d'Hachem, ceux qui craignent Hachem, ceux qui craignent sa parole. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de vous et qui vous ont dit, non, on agit comme il faut et vous n'agissez pas comme il faut. Et bien, eux, lorsqu'il y aura le Mashiach, comme ça le verset il dit, le Mashiach, ils verront votre joie et ils auront honte. Ça, c'est l'explication, le sens simple du verset. Mais Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, il explique. Maïdirtif, c'est quoi ce qui est écrit? Shimu devar Hashem acharidim el devaru. C'est quoi ce qui est écrit? Écoutez la parole d'Hashem, ceux qui craignent sa parole. Déjà, ça fait référence. Elu talmidei hachamim. Ce sont ceux qui sont les élèves des sages. Ça veut dire ceux qui apprennent chez des sages pour comprendre la raison de chaque enseignement. Un peu ce qui étudie, comme on l'a vu avant, la Gemara, ce qu'on appelle la Gemara, c'est-à-dire la compréhension des enseignements. Quoi? Amru acherem. Vos frères, ils ont dit, ouais, c'est nous que Hachem il honore et pas vous. Ils ont dit, c'est qui vos frères? Elou, bah, les Mikra. Ce sont ceux qui étudient juste les versets. Sona Achem, ceux qui vous n'aiment pas, ils ont dit, c'est qui? Elou, bah, les Mishnah, ceux qui étudient la Mishnayot, ceux qui étudient Mishnah, ils n'aiment pas ceux qui étudient la Gemara, puisque ceux qui étudient la Mishnah, juste la Mishnah, on ne peut pas en dire des enseignements de la Mishnah. Il y en a qui disent, leur enseignement de la Mishnah. Mais sans avoir connaître la raison des choses, on ne peut pas lire les enseignements. Menad Dechem, ceux qui vous bannissent, Eloa Meharet, ce sont les ignorants. Alors, eux, ils disent qu'ils agissent mieux que vous, mais vous verrez que non. Vous verrez que vous avez bien agi. Ah, peut-être on va dire, alors eux, ils ont plus d'espoir. Shema Tomar Pasak Sivram ou Batel Sikuyam. Peut-être tu vas dire que leur ils ont plus de possibilité d'être joyeux, ils vont être rejetés. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il est écrit dans le verset. Venira Besim Ratrem, et on verra dans votre joie. C'est-à-dire que tout le monde, ils seront là, ils vont pas être rejetés, ils vont être là. Et bien écrit juste qu'ils vont ne plus exister, Chazo Shalom. Shema Tomar Israël Yevoshu. Ah bien écrit dans la suite du verset, on verra dans votre joie. Et ils vont avoir honte. Qui vont avoir honte? Peut-être ça sera eux. Ils vont voir, mais ils vont avoir honte. Non. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset vient dire Vehem Yevoshu. Eux, les autres. Ça veut dire Ovde Koravim, ceux qui servent les étoiles, les idolâtres. Hem Yevoshu, ils vont avoir honte. Et Israël, mais ceux qui. Le peuple juif, Ismechou, ils seront joyeux. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le mérite de finir ce deuxième chapitre du traité Baba Metzia. Merci beaucoup à Hachem qu'on ait le mérite de connaître toute la Torah, de bien servir à Kadosh Baruch Hu, d'étudier, d'enseigner, d'accomplir toutes les mitzvot, de respecter toute la Torah, nous, tous nos descendants, tous les enfants d'Israël, qu'on se soit tous des tzadikim, amen, et qu'on continue à bien connaître toute la Torah, amen. Hadran alach b'neder leum etziot, et on passe au troisième chapitre. Alors, avant de lire le début de la Mishnah du troisième chapitre, on rappelle juste deux introductions, des points qu'on avait déjà vus, peut-être dans notre traité, en tout cas dans Baba Kama, c'est sûr. Première introduction, c'est que celui qui garde gratuitement, quelqu'un qui garde gratuitement un objet, alors il n'est responsable que s'il y a eu s'il a fait une négligence. S'il n'a pas fait de négligence, il n'est pas responsable. S'il n'a pas fait de négligence, par exemple que l'objet il a été volé sans négligence, pas qu'il l'a laissé quelque part dans la rue et ça a été volé. Mais s'il a laissé chez lui à la maison, il y a eu un vol chez lui, un cambriolage, il n'est pas responsable. Quelqu'un qui garde un objet gratuitement. Deuxième loi, quelqu'un qui a volé un objet en cachette, si on l'attrape avec des témoins qu'il a volé l'objet en cachette, il faudra qu'il paye le double et rendre l'objet et encore une fois payer l'objet. Si maintenant on ne l'a pas attrapé et il y a eu un... si on l'a attrapé, s'il s'agissait d'une bête, du petit bétail au gros bétail, alors, et que, en plus du vol, il a aussi fait l'abattage rituel ou alors il a vendu la bête, dans ce cas-là, il faut payer 4 ou 5 fois. 4 fois pour le petit bétail, 5 fois pour le gros bétail. Mais donc, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a confié, ça la Mishnah, elle va parler du cas, où quelqu'un, il a confié son objet à un shomer chinam, quelqu'un d'autre qui devait garder l'objet gratuitement. L'objet a été volé. Donc, le shomer chinam, celui qui garde l'objet, n'a pas besoin de payer. Il doit juste jurer que ça, vraiment l'objet il a été volé et qu'il doit jurer plusieurs choses, que c'est pas lui, que qu'il n'a pas utilisé auparavant l'objet. Bref, que c'est vrai que ça a été volé. On va dire, il doit jurer que l'objet a été volé. S'il jure, ça y est, il les quitte, il n'a pas besoin de payer. Si, alors, qu'est-ce qui se passe? La Mishnah, elle va parler du cas où cet homme-là, il a dit, tu sais quoi? Moi, l'objet, il a été volé. Mais je paye quand même l'objet. Je ne vais pas jurer, je peux jurer et me rendre quitte, mais je te paye l'objet. Et il lui a payé l'objet et il n'a pas juré. Et après, quelques temps après, on retrouve le voleur. Donc ce voleur-là en cachette qui a volé, il doit payer le double. À qui il devra payer le double? Va dire la Mishnah, il ne doit pas payer le double au propriétaire initial de l'objet, mais au gardien. À ce gardien-là qui a juré que l'objet lui appartenait. Qui n'a pas juré que l'objet a été volé, et il aurait pu. Il a payé de sa propre poche alors qu'il n'avait pas de besoin. Et bien, si on trouve après le voleur et le voleur il doit payer le double, il faudra payer à ce gardien-là. Regardons la Mishnah. Hamafkid etzel chavero be'ema okelim. Celui qui confie à son ami une bête ou des objets. Venignevu oshe avdu. Et ils ont été volés ou alors ils ont été perdus. Shilem veloratza alishava. Donc ils ont été volés ou perdus. Dans ce cas-là, le propriétaire, il n'a pas besoin de payer. Il n'a pas besoin de payer, il peut jurer que ça s'est passé, qu'il a été volé ou perdu. Mais il n'a pas voulu. Shilem, il a préféré payer, pas le propriétaire, le gardien, il a préféré payer. Veloratza alishava, il n'a pas voulu jurer. Et il aurait pu jurer et se rendre quitte. Pourquoi? Sha'arei amru, car on a dit, shomer chinam nishba veyotze, que celui qui garde gratuitement un objet, il peut jurer, essayer, il est quitte. Nimtza haganav, si après coup, après avoir payé, alors que c'était du volontariat, quoi, c'était bénévolement, il a voulu payer, il n'avait pas besoin. Nimtza haganav, si au final il a trouvé, le voleur il a été retrouvé, meshem tashlum kefel, ce voleur il payera le double. Tavach ou Mahar, s'il s'agissait d'une bête et il a fait l'abattage rituel où il a vendu la bête, Meshem Tashlum Arba Vechamisha, il faudra payer 4 ou 5 fois. Lemi Meshalem, à qui il faudra payer? Lemi Sheha Pikadon Etzlo. À celui à qui on avait confié l'objet, c'est-à-dire celui qui gardait l'objet, la bête. C'est lui qui recevra ou le double ou 4 et 5. Maintenant l'inverse. Si celui à qui on a confié l'objet, il a dit non, moi je jure, je ne veux pas payer. Je jure que ça a été volé, il a juré, il n'a pas payé. Nishba, s'il a juré que l'objet ou la bête ont été volés, veloratza l'échalem, il n'a pas voulu payer. Et après coup, nimtza haganav, si on trouve le voleur, meshem tashlum kefel, ce voleur il doit payer le double. Tavar ou machar, si c'était une bête et le voleur il a fait l'abattage rituel où il a vendu, meshem tashlum arba vechamisha, faut qu'il paye 4 et 5. Lemi meshalem, à qui il faudra qu'il paye? Les bal à pikadon, il faudra qu'il paye au propriétaire de l'objet, donc celui qui a perdu, celui qui était le propriétaire de l'objet, quoi, celui qui a confié l'objet. Point. La Gemara, elle va expliquer Bezrat Hashem, juste pour qu'on comprenne comment ça se fait. C'est vrai que le gardien, pourquoi le gardien il a le droit de recevoir le double quand il a préféré payer au lieu de jurer? Il pouvait jurer pour se rendre quitte de payer, mais il a préféré payer quand même. Normalement, pourquoi il devrait recevoir lui-même le double? Quelle est la raison qu'on lui donne à lui le double? C'est que le c'est pas son objet qui a été volé. Mais le propriétaire de l'objet, quand il confie un objet à quelqu'un qui veut, à un gardien, il préfère s'assurer qu'il aura un plus que peut-être il aura deux. Ça veut dire... Il se dit, moi, je préfère, si toi, monsieur le gardien, tu préfères, même s'il y a un cas de vol, tu préfères me payer, tu vas être gentil de me payer, je suis prêt en contrepartie de te donner le double si on attrapera le voleur, mais au moins, moi, je m'assure d'avoir l'objet lui-même ou la valeur de l'objet. Alors, demande la Gemara. Au départ, quand on a parlé de la Mishnah, on a dit celui qui confie à son ami une bête ou des objets. Pourquoi on a besoin de parler des deux cas? Pourquoi on a besoin de nous enseigner le cas où il lui a confié une bête? Pourquoi on a besoin de nous enseigner le cas où il lui a confié des objets? Dit la Gemara, on a eu besoin de nous dire les deux cas. Dit Tana Behema, si la Mishnah avait parlé du cas où il a confié une bête, juste de ce cas-là, j'aurais dit, Behema hu de maknele kfila, mishum de nafish ticha li yule ou la fuka. Aval kelim de l'onafish tichayu et malo makne le kfela. J'aurais dit, c'est que dans le cas de la bête que le propriétaire de la bête, de la bête quand il va, quand c'est le propriétaire initial de la bête, il est prêt à faire acquérir le double au propriétaire, au gardien, au cas où il va payer à la place de juré, il est prêt à lui faire acquérir le double, et qu'après on va attraper le voleur, il est prêt à lui faire acquérir le double, pourquoi ? Parce qu'il se dit, regarde comment il est gentil ce gardien, de toute façon il me rend un service tellement grand, c'est difficile de s'occuper d'une bête, de garder une bête. C'est pas juste la garder, il faut s'occuper, à la faire sortir quand il y a besoin de sortir, à la faire rentrer dans l'étable, à lui donner à manger, il y a du travail. Mais peut-être dans le cas d'un objet, qu'il n'y a pas tellement de travail, il n'y a pas tellement de choses à s'occuper. On le met à la maison, on le met quelque part, c'est fini. Peut-être dans ce cas-là, le propriétaire de l'objet, il ne veut pas de son cœur, il ne sent pas tellement de reconnaissance envers celui qui garde l'objet. Il ne se dit pas que je suis prêt à laisser cet objet au propriétaire. Que je suis prêt à lui donner le double au cas où on trouve le voleur. Si lui... Il est d'accord de payer à la place de juré que l'objet il a été volé. Alors je suis prêt, si au final on retrouve le voleur, que lui il prenne le double. Peut-être que non. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que oui, même dans les objets où le gardien n'a rien fait de spécial, quand même le propriétaire il est d'accord de lui faire acquérir le double. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, s'il est d'accord de payer à la place de juré alors qu'il aurait pu être quitte en jurant, alors je lui fais acquérir le double. L'inverse. Veitana Kelim. Et si on avait enseigné maintenant juste le cas des objets, qui lui a confié des objets, Avamina, j'aurais pu dire Kelim ou de Kamaknele Kfela, Mishum Delon Afish Kfilayu. J'aurais dit c'est que dans le cas des objets que le propriétaire des objets il fait acquérir le double. C'est que dans le cas des objets que le propriétaire des objets il fait acquérir au gardien le double, au cas où, encore une fois, l'objet il a été volé et le gardien a préféré payer plutôt que jurer. Et après, au final, on retrouve le voleur. Alors, il lui dit, je te fais acquérir le double. Pourquoi ? Mais je me délonne affiche filayo. Car le double ne peut pas monter plus. Il y a maximum jusqu'à un objet. Maximum, si on trouve le voleur, c'est on rembourse l'objet plus un deuxième objet. Voilà, deux fois plus. L'objet lui-même plus un autre fois l'objet. Top. Aval beima, mais dans le cas de la bête. De ri tavach umachar meshen tasloume dalat vehe. Que arba vechamisha. Que dans le cas où, si le voleur, il s'avère qu'il a volé la bête, et en plus de ça, il a fait l'abattage rituel où il a vendu la bête. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il paye juste le double. Il paye 4 ou 5. Peut-être dans ce cas-là, le propriétaire, il veut garder la bête pour lui. Emma, l'homme a tenu fait là. Peut-être qu'il ne veut pas faire acquérir le double, ou alors le 4 et 5, à cet homme-là. C'est pour ça qu'on nous a dit que oui, même dans ce cas-là, le propriétaire de la bête, dans tous les cas où le gardien, il est prêt à jurer, à payer plutôt que de jurer qu'il y a eu un vol, et donc il paye alors qu'il n'est pas obligé. Dans tous les cas, le propriétaire de la bête ou de l'objet, le vrai propriétaire de l'objet, il dit, moi, je suis prêt que si on attrape après le voleur, eh ben, il te payera à toi soit le double, soit 4 et 5 quand il faut. Tricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous parler et du cas de la bête, que quelqu'un lui a confié une bête à son ami ou qu'il lui a confié un objet. Voilà. On va s'arrêter ici et on continuera à parler de la Mishnah Bezrat Hashem dans le DAF de demain. Passez une bonne journée, Be'atzlacha et à bientôt.